au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Ben là, vous allez savoir, à chaque fois que j'anime l'émission, je l'ouvre toujours comme ça. Parce que c'est quatre fois mieux quatre bonjours qu'un seul, c'est tout. C'est pas plus que ça. Alors, une belle journée aujourd'hui, c'est Denis Martin Chabot au micro. Une belle, belle journée. Grosse émission aussi. Alors, d'abord la météo. Il va faire beau, pas mal beau partout. Ça va être beau et chaud. Québec, Ontario, province maritime. Malheureusement, par contre, pour Terre-Neuve et Labrador, c'est de la pluie aujourd'hui. Mais ailleurs, donc, on parle de 20 à 26 degrés. Pas trop d'humidex non plus, fait que profitez-en. Dans l'ouest du pays, c'est de la pluie au Manitoba et en Saskatchewan, avec un avis de qualité d'air à Saskatchewan, 21-22. Passage nuageux 18 à 20 à Edmonton. Pluie abondante dans le sud de l'Alberta. Et puis, ben, on retourne au beau et chaud avec un petit peu d'humidité en Colombie-Britannique. 23, faible pluie à l'intérieur des terres. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, oh, beaucoup de stock. On va parler d'une enquête qui est... faite par la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM, une enquête sur le bien-être des populations, le bien-être social et économique des populations de LGBTQIA+. Chronique économie, on va parler justement de ces CPE pour les personnes qui ont un permis de travail ouvert. On se rend compte que ça va leur coûter beaucoup plus cher. On va parler aussi du Festival des arts de Saint-Sauveur avec Étienne Lavigne, son directeur général. Puis on va parler de livres. On va parler de Quelques solitudes, un roman de l'autrice Marianne Brisebois. C'est Anne-Marie Aubin qui nous présente ça. Ah, j'ai un petit peu le temps de vous parler un peu de ce 22 juillet. 22 juillet, vraiment, là, l'année passe... Il me semble que ça passe vite. Hein? Je vois déjà des annonces pour aller acheter des fournitures scolaires. Ouf! En tout cas, moi, je suis... Donc, ça fait longtemps que je retourne à l'école, fait qu'on n'a pas 300 faire. Alors, c'est 22 juillet, 203e jour de l'année. Il en reste 162 avant le bye-bye. Je vous dis ça de même. Et puis, aujourd'hui, c'est la journée, la fête de la Sainte-Marie-Madeleine. J'aime ça, on vient de reconnaître qu'elle était une des disciples les plus proches de Jésus. Alors, on l'a appelée l'apôtre des apôtres. C'est elle qui a été la première à voir Jésus ressuscité et à l'annoncer aux disciples. Évidemment, si vous croyez en Dieu. Ça, c'est toujours, faut toujours mettre ça d'avance. Je vous annonce aussi qu'en 1933, aux États-Unis, Willie Post devient le premier pilote à réaliser le tour du monde en avion solitaire. Il le fait en 7 jours, 18 heures et 49 minutes. Wow! Ça va être long quand même, tout seul dans un avion. Et puis, 1822, c'est l'anniversaire de naissance de Gregor Mendel. C'est un moine et scientifique autrichien considéré comme le père de la génétique moderne pour ses travaux sur l'hérédité des plantes. Et puis, 1461, c'est le décès du roi Charles VII. C'est le roi de France, surnommé le Victorieux, pour avoir mis fin à la guerre des Cent Ans contre l'Angleterre. Citation du jour, « Le pardon est la fragrance que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé, Mark Twain. » Ouais. Alors, on y va en musique.
On te l'annonce un soir d'avril. Tu croyais pourtant ne pas t'être découvert d'un fil. Tu te rappelles que sortir couvert n'était plus qu'une option après tes quelques verres. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois, à tes pulsions te pousser et te pèsent. Le maladie vit, le maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois,
à tes pulsions te pousser et te baise. Le maladie vit, le maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. En mourir, mais ne désirez pas crever. Allez deux se désirer en mourir, mais ne désirez pas crever.
Le maladie, c'est une chanson de Fouet.
Dans la presse ce matin, Trump trouve le Canada désagréable. L'ambassadeur des États-Unis au Canada affirme que le fait que les Canadiens évitent de voyager aux États-Unis et interdisent la vente d'alcool états-unien est l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump les trouve désagréables. Pete Hoekstra, a soutenu hier lors d'une conférence que de telles mesures n'envoient pas de signaux positifs quant à la bonne attitude du Canada envers les États-Unis. M. Hoekstra exprimait lors du sommet annuel de la Pacific Northwest Economic Region Foundation à Bellevue, dans l'État de Washington. Alors, il a exprimé, donc, c'est un enregistrement qu'a reçu la presse canadienne sur des propos de l'ambassadeur. C'est venu du bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, donc le premier ministre qui s'appelle David Eby, qui a indiqué avoir reçu l'enregistrement d'une personne présente dans l'auditoire. M. Eby a déclaré dans un communiqué que les propos de l'ambassadeur démontrent que les efforts des Canadiens pour tenir tête à Donald Trump portent fruit et a encouragé la population à persévérer. Un représentant du bureau de M. Hoekstra n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'ambassadeur a fait ses remarques en réponse à une question sur les mesures à prendre pour encourager les gens à voyager de nouveau alors que Vancouver et Seattle se préparent à accueillir des matchs de soccer dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA l'année prochaine. Que les Canadiens restent chez eux, c'est leur affaire, vous savez, je n'aime pas ça, mais si c'est ce qu'ils veulent faire, tant mieux. S'ils veulent interdire l'alcool états-unien, c'est bien. A-t-il expliqué. Il y a des raisons pour lesquelles le président et certains membres de son équipe ont qualifié le Canada de méchant et de désagréable, vous voyez, à cause de certaines de ces mesures. M. Hoekstra ajoute qu'il pourrait faire passer de l'alcool de l'autre côté de la frontière s'il le voulait. Alors, nous faisons des allers-retours au Michigan et il vérifie pas ma voiture à mon retour, a-t-il blagué, provoquant les rires de l'assistance. La déclaration du premier ministre de la Grande-Bretagne, M. Eby, en réponse aux remarques de l'ambassadeur, encourage les gens à continuer à acheter des produits canadiens et à passer leurs vacances au Canada et non aux États-Unis. Nous ne tolérons pas ces attaques contre nos emplois, notre économie et notre souveraineté sans réagir. Nous le ferons. Nous resterons forts ensemble, a déclaré le premier ministre provincial dans un communiqué envoyé par courriel. La Colombie-Britannique fait partie des provinces qui ont interdit la vente d'alcool états-unien dans leurs magasins publics après que le président Trump a imposé des droits de douane élevés sur les marchandises provenant du Canada, une mesure qui a incité certains Canadiens à annuler leur voyage transfrontalier. En mars, le nombre de Canadiens rentrant chez eux en voiture depuis le sud de la frontière a chuté de 32 % par rapport au même mois l'an dernier. Il s'agissait de du troisième mois consécutif de baisse sur un an et la plus forte chute depuis la pandémie de COVID-19, selon Statistique Canada. Les voyages de retour en avion ont quant à eux diminué de 13,5 % en un an ce mois-là. M. Hoekstra a déclaré hier sur X qu'il avait parlé lors du sommet de l'importance du corridor de Cascadie pour les États-Unis et le Canada. Il a ajouté que M. Trump s'attache à bâtir un avenir sûr, sécurisé et prospère, que la construction de cet avenir passe par la coopération avec le Canada et la région du Nord-Ouest du Pacifique. Alors, quand on vous disait que ça avait de l'impact, que les petits boycotts, bien, ça marche. Et puis, les premiers ministres des provinces des territoires rencontrent Mark Carney. C'est dans Le Devoir ce matin. Alors, cette guerre commerciale que livrent les États-Unis au Canada sera au cœur des discussions lorsque les premiers ministres des provinces et des territoires rencontreront le premier ministre du Canada, Mark Carney, ce matin. Les premiers ministres provinciaux et territoriaux veulent en savoir plus sur les plans de M. Carney pour répondre à l'ultimatum du président Donald Trump qui a fixé au 1er août, la date butoir pour conclure un accord commercial. Dans une lettre adressée à M. Carney le 10 juillet, M. Trump a annoncé d'imposer des droits de douane de 35 % sur les produits canadiens le 1er août, fixant ainsi une nouvelle date limite pour les négociations commerciales qui auraient dû être terminées à l'heure actuelle. La semaine dernière, M. Carney a laissé entendre qu'un accord commercial avec les États-Unis inclurait probablement certains droits de douane. Il dit s'attendre à une intensification des négociations à l'approche du 1er août. Lors de la première journée du Conseil de la Fédération hier, le premier ministre du Québec, François Legault, a mentionné qu'il souhaite encore que le gouvernement fédéral s'entende avec Donald Trump afin de donner de la prévisibilité, à l'économie du pays, quitte à ce que certains droits de douane restent en place. Il a ajouté toutefois qu'il ne faudra faire aucun compromis sur des secteurs névralgiques pour le Québec, comme la gestion de l'offre, la culture et la langue. Pour ceux qui étaient à l'antenne hier, nous avons fait quelques entrevues pour parler des appels à l'aide qui montent en flèche parce qu'on parle de violence envers les communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Des appels à l'aide donc qui viennent de Interling, qui viennent de Gris, qui viennent un peu partout parce qu'il y a vraiment une montée de cette violence. Les chiffres de Statistique Canada le montrent. On parle même de certains cas que ça a monté du tiers. Les appels à Interling ont doublé. Bien, ça donne qu'aujourd'hui, j'avais prévu de parler de la première enquête nationale sur la santé économique et le bien-être des personnes de LGBTQIA+, qui vient d'être lancée. Je pense que ça donne assez bien à ce moment-ci. Il n'existe pas encore de données nationales exhaustives sur le sujet, ce qui rend difficile l'élaboration de politiques publiques adaptées, l'allocation adéquate de ressources aux organismes sans but lucratif ou encore à l'attribution équitable des bourses scolaires. Alors, pour discuter de cette enquête, c'est une vaste enquête, c'est la première fois que ça va se faire, je reçois Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue à l'émission, Martin.
Merci, Denis Martin.
Ah oui, c'est vrai, on a des noms qui se ressemblent un peu. Alors, justement, j'en ai mentionné un petit bout en présentation, mais oui. Allons-y avec l'expert. Pourquoi cette enquête?
Bien, alors, la vérité, c'est que les populations d'ES-LGBTQ+, continuent de faire l'objet de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, sur la base de l'identité de genre, sur la base du sexe, et que, évidemment, ça a un impact sur leur trajectoire socio-économique. Enfin, on a différents indices, en fait, qui nous permettent de le présumer. L'enquête vise à aller beaucoup plus loin, mais disons juste d'entrée de jeu, par exemple, que les données de l'Institut de la statistique du Québec, les données les plus récentes qu'on a sur le sujet, montrent que les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles sont deux fois plus susceptibles de vivre du harcèlement en milieu de travail que les personnes de la population générale. Et chez les personnes trans et non-binaires, c'est trois fois plus. Alors ça, c'est un indice. Quand on regarde les situations d'itinérance, bien, les jeunes en situation d'itinérance, on en a 25 à 40 % qui sont des jeunes LGBTQ2+. Alors, on a là aussi vraiment encore un indice qu'il y a vraiment des situations de précarité qui affectent de manière particulière les personnes de LGBTQ+, ou bien encore font obstacle à leur entrée sur le marché du travail, ou bien, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, vivent un climat peu acceptant, vivent du harcèlement, qui parfois les pousse en fait à quitter leur emploi, à changer d'emploi. Alors, on a toute une panoplie d'indices comme ça, mais notre objectif, c'est vraiment de plonger dans les conditions de vie socio-économique des personnes et d'aller essayer de mieux comprendre comment ça se passe.
Je veux juste ajouter, pendant la pandémie, il y a une étude d'Égal Canada qui démontrait que les personnes des communautés LGBTQIA+, étaient négativement touchées par la pandémie de COVID-19. Oui. Alors, mais ça, c'est des choses qu'on constate. Mais là, vous cherchez à expliquer pourquoi.
Bien, exact. En fait, donc, c'est un grand projet. En fait, on est 31 chercheurs universitaires à travers le Canada. Quelques collègues américains aussi se joignent à nous.
Il y a une trentaine... Ils ont le droit de faire des enquêtes sur nous, les autres, maintenant?
Bien, en fait, tout ça a commencé avant.
Ah, d'accord.
J'allais dire le régime actuel, mais tout ça a commencé un peu avant.
Okay.
Alors, mais donc, une trentaine de chercheurs, une trentaine d'organismes communautaires aussi à travers le Canada... beaucoup d'étudiants aussi travaillent avec nous. On a un comité consultatif communautaire aussi pour orienter les décisions, les données qu'on va colliger. Et vraiment, à travers ce projet, Ben d'abord, c'est un projet en trois volets. Peut-être que c'est... il faut le préciser. Alors, il y a l'enquête, il y a le sondage, en fait, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Mais quand on répond au sondage, puis on va y revenir, on peut aussi manifester notre intérêt pour participer à des groupes de discussion ou à des entrevues individuelles.
Okay.
Donc, c'est vraiment un projet à multiples facettes parce que pour comprendre un phénomène aussi complexe que la précarité, les trajectoires de précarité, on a besoin vraiment d'avoir de multiples fenêtres sur le phénomène. Alors, on ne veut pas juste décrire les gens à travers des chiffres, on veut aussi connaître leur histoire, raconter leur histoire, porter leur voix.
Donc, je vais peut-être poser quelques questions sur quelle sorte de questions on va poser aux gens. Qu'on va leur demander précisément?
Bien, d'abord, on va leur demander... c'est des questions que beaucoup de personnes trouvent relativement intimes, mais on a quand même besoin d'avoir ces données-là. On va leur demander c'est quoi leur revenu? C'est quoi les sources de ce revenu aussi? On va les questionner sur la possibilité d'avoir vécu de l'insécurité alimentaire. Hein? Par exemple, de ne pas avoir eu assez de nourriture. Pour manger à sa faim, d'avoir dû couper les portions pour étirer l'épicerie plus longtemps, la difficulté à boucler les fins de mois, la difficulté à payer ses factures. On n'a pas besoin d'avoir vécu ces situations pour répondre au sondage. Ce qu'on veut faire, c'est documenter l'état de la situation.
Parce que c'est l'aspect économique, mais aussi l'aspect du bien-être social.
Ben exactement.
Ça, c'est autre chose.
Ben oui, exactement. Donc, en fait, c'est assez vaste. Il y a aussi les expériences possibles d'itinérance ou même l'itinérance cachée en le fait d'avoir eu nulle part où dormir et d'avoir dû dormir chez des amis. Donc, souvent, on ne le voit pas comme de l'itinérance, mais c'est des situations fréquentes entre deux logements. On connaît la pénurie du logement actuel.
Tout à fait.
Alors, donc, le fait de ne pas avoir un endroit chez soi, c'est aussi une forme d'itinérance. Donc, on a besoin de documenter, d'avoir vraiment un portrait de ces situations. On s'intéresse aussi, en fait, aux coûts pour les soins de santé, pour les assurances, parce que ça fait partie aussi de notre quotidien. Il y a aussi ce qui nous intéresse parmi les questions qu'on pose.
Est-ce qu'il y aurait des questions relativement à la violence? Parce que la violence, là, je veux qu'on s'entende, je ne parle pas juste de la violence physique, il y a la violence qui est dans les mots, est-ce que ça va faire partie de
Exactement.
Votre questionnaire?
Oui. Voilà. Donc, les expériences de discrimination, les expériences d'intimidation, de micro-agression, en fait, parce que c'est un déterminant majeur des trajectoires socio-économiques. Alors, on le voit, en fait, des marques de discrimination dans des enquêtes qu'on a fait antérieurement. Parfois, on n'est pas appelé en entrevue parce qu'il y a des marqueurs de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle ou de notre statut de personne LGBTQ 2+, par exemple, dans notre CV ou dans notre lettre de présentation. Et donc, parfois, les CV sont mis de côté. Parfois, quand c'est en entrevue, on détecte quelque chose dans la voix, les manières, ou simplement on révèle des informations sur nous. Et donc, les gens ne sont pas rappelés pour être embauchés. Donc, ils sont aussi exclus.
Ouais.
Puis une fois en milieu de travail, en fait, nous, on a documenté des obstacles comme le fait d'être rétrogradé à des postes moins intéressants, le fait de ne pas avoir un emploi qui correspond à ses compétences, donc de devoir occuper des emplois qui sont en deçà de notre profil de compétences, d'être moins payé que les autres. Pour un travail similaire, le refus de promotion, des évaluations injustes. Alors, tous ces obstacles, ils existent, mais on les tient de différentes enquêtes.
Okay.
Là, on veut questionner tout ça dans une même enquête pour établir des relations entre les variables, établir des profils. Donc, quels sont les profils de personnes qui vivent? Quel type d'obstacles, par exemple? Comment ça a affecté leur trajectoire sur le long terme? On va aussi les questionner, pas juste à travers un sondage, comme je le disais, mais aussi à travers des groupes de discussion, des entrevues. Donc, tous ces volets du projet sont importants pour tracer un portrait global.
C'est la première fois que ça se fait. Je me rappelle, dans mon jeune temps, on parlait de l'argent rose et que les personnes de nos communautés étaient financièrement, étaient socialement plus à l'aise. Je me disais, mon Dieu, qui est-ce qui ont interviewé? Parce que moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans.
Ouais.
Alors là, c'est vraiment une vraie...
c'est important, en fait, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de l'argent rose. En fait, il y a une stratification à l'intérieur de nos communautés. D'ailleurs, on n'est pas une communauté, on est des communautés, des groupes extrêmement diversifiés. Et tout le monde ne fait pas face aux mêmes obstacles. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on a observé dans notre projet Sa vie LGBTQ, en fait, il y a quelques années que j'avais co-dirigé avec mes collègues Lynn Chamberlain et Isabelle Côté, c'est qu'on a observé des hiérarchies très claires, des hiérarchies qui sont basées sur le sexe, les hommes, par exemple, gagnant plus que les femmes. sur l'identité de genre, sur les modalités de genre. Les personnes trans et non-binaires gagnant moins que les personnes cisgenres, les personnes racisées gagnant moins que les personnes blanches dans l'échantillon. Alors, toutes ces hiérarchies-là, en fait, elles sont observées. Donc, oui, on peut parler de l'argent rose, mais on parle de groupes assez privilégiés. C'est ceux qu'on voit, c'est ceux qui voyagent, c'est ceux qu'on photographie pour les publicités.
Oui, tout à fait.
Mais c'est pas la majorité des gens, hein?
Non, non, tout à fait. Alors, c'est donc la première fois qu'on le fait. Ça va être quoi le défi? Parce que là, on parle justement de ce qui était au cœur du problème des études dans le passé. Moi, je me rappelle quand on parlait de cet argent rose, les études étaient faites. En fait, on interviewait des hommes, parce que, exclusivement des hommes, qui sortaient des bars aux États-Unis. Bon, pour aller dans
donc
les bars.
Qui avait déjà le moyen.
Qui a déjà les moyens.
Ben oui.
Alors, c'est sûr que ça faussait un peu les données. Alors, bien comment sûr. Vous allez vous y prendre pour éviter de fausser ces données-là? Bonne question.
Le, oui, en fait, le recrutement, c'est comme un peu le nerf de la guerre, de la recherche. Mais c'est aussi le plus grand défi quand on travaille avec des communautés ou des populations que l'on dit cachées. Mm-hmm. Cachées parce qu'on n'a pas de paramètres populationnels. T'sais, le recensement canadien nous dit il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, maintenant il y a combien de personnes non-binaires. Voilà. Mais on a très peu de données pour établir un portrait des personnes sur la base de l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle va être ajoutée dans le prochain recensement, d'ailleurs. Il faudra s'en reparler.
Oui.
Alors, ça, c'est génial, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, le recrutement, en fait, sûr que c'est un défi. Hein. Je pense qu'on a tous raccroché plusieurs fois au nez des sondeurs qui nous appellent pendant le souper pour nous poser des questions. Nous, on ne fait pas ça. Alors, nous...
Je me reconnais là-dedans.
Oui, hein, moi aussi. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on envoie... pardon. On invite les gens à s'inscrire à travers un lien sur le web.
Oui.
Puis, on leur envoie un lien pour participer. Pourquoi ces deux étapes? Parce que maintenant, il y a tellement de robots qui automatiquement remplissent des questionnaires pour avoir la paye au bout. Alors, nous, on donne 15 $ par questionnaire complété à la fin. Donc, mais il y a tellement de robots qu'on doit procéder en deux étapes et valider, en fait, l'éligibilité. Et donc, les gens répondent ensuite quand ils veulent. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle un échantillon de volontaires ou de convenance. Donc, ce n'est pas d'emblée représentatif. Alors, ce qu'on veut, c'est dans un premier temps diversifier au maximum le profil des personnes qui répondent. On a besoin de personnes en situation de handicap, des personnes qui ne le sont pas, des personnes cisgenres, des personnes trans non-binaires, des personnes racisées, des personnes blanches. On a besoin vraiment, si vous vous demandez si vous devriez participer, la réponse est oui, parce que c'est sûr qu'on a besoin de vous. Puis on a besoin de vous aussi pour des raisons politiques. Puis j'espère qu'on va avoir une minute pour en parler.
Oui,
après.
Allons-y. Oui, oui.
Oui, on a une minute
on
maintenant.
Une minute.
Bon, donc, parce que je pense qu'actuellement, on a vraiment un discours sur l'invisibilisation et l'effacement. On l'a vu même sur les monuments aux États-Unis. Donc, il y a vraiment une volonté politique d'effacer nos communautés, d'effacer notre présence dans l'espace public. Et c'est sûr que moi, comme chercheur, c'est la voie que j'ai choisie. Produire des données, publier des données, donner une voix à travers des entrevues, des groupes de discussion aux personnes de nos communautés, c'est une manière de militer, c'est une manière de lutter contre l'effacement, c'est extrêmement important. En fait, je pense que faire de la recherche et participer à des études aujourd'hui n'a jamais été aussi important. C'est un geste militant essentiel.
Bon, c'est dit, puis ça m'amène à ma prochaine question, parce que on l'a mentionné hier, il y a une hausse de la violence envers nos communautés. J'ai parlé à un intervenant de Trans-Mauricie, Sam Desbiens, qui a même dit maintenant, quand je sors, je mets un autre T-shirt pour ne pas être identifié. On a l'impression que les gens ont tellement peur qu'ils retournent au placard. Vous faites une enquête dans un moment très difficile de nos communautés.
Oui, absolument. Absolument. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut la faire. Je pense que c'est justement une motivation supplémentaire. Ce n'est pas le temps de reculer, ce n'est pas le temps de lâcher, ce n'est pas le temps de rentrer.
De toute façon, c'est confidentiel quand vous répondez.
Exactement, exactement. Et ce qui est bien, justement, c'est que c'est une manière de militer qui ne nous expose pas. Parce que les données, elles sont transmises par des chercheurs, puis elles sont transmises à des politiciens. Et il n'y a rien de plus utile, je pense, pour influencer les politiciens, les décideurs publics, que des chiffres et des extraits de vécu, des citations.
J'aimerais aussi qu'on explique aux gens à quoi vont servir les données qui seront colligées par cette étude.
Bien, c'est important, en fait, parce qu'on a souvent l'idée que la recherche, ça produit des données, ça produit des connaissances, puis que ça, après, on ne fait rien. Mais le projet, c'est vraiment dans l'objectif de produire des résumés, des plans, des stratégies, en fait, pour influencer les différents paliers de gouvernement. Donc, c'est une enquête canadienne, pan-canadienne, mais on va produire des portraits par province. On va produire des portraits nationaux pour les territoires également, parce qu'on a des gens qui participent là-bas. L'idée, c'est vraiment, en fait, de pouvoir montrer quelles sont les spécificités de la précarité, de la pauvreté chez les personnes de LGBTQ2+, pour vraiment les sensibiliser, les éduquer, peut-être prévenir aussi des situations de discrimination. Si on sensibilise davantage les employeurs potentiels, les gens des ressources humaines, peut-être qu'on va contribuer à ce qu'il y ait moins d'exclusion du marché du travail. Puis aussi, ben, peut-être qu'il faut adapter les programmes de lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale pour tenir compte des spécificités de nos communautés.
Et cette enquête se termine quand?
Alors, on aimerait terminer le recrutement à la fin août.
Oui.
À peu près pour pouvoir, parce qu'en fait, les entrevues se poursuivent, les groupes de discussion se poursuivent, mais fermer l'enquête, en fait, pour commencer à analyser les données et commencer à produire assez rapidement des données.
Si les gens veulent s'inscrire, il y a un site web, j'imagine, on fait la chaire.
Oui, en fait, si on va sur le site de la chaire DSP, chaire dspg.ucam.ca,
ouais.
Donc il y a le lien et les infos pour l'enquête. Si on peut écrire aussi au courriel de la chaire, puis on va vous transférer les informations. Il y a aussi la page Facebook de la chaire, chaire DSPG aussi.
Merci beaucoup, Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Regard de météo. Donc, c'est toujours beau et chaud. Pas trop d'humidex aujourd'hui au Québec, en Ontario, province maritime. Il y a un peu de pluie, par contre, dans le nord de l'Ontario. De la pluie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Labrador aussi. Il y a de la pluie au Manitoba, Saskatchewan. Il y a même un avis de qualité d'air en Saskatchewan. Passage nuageux et 18-20 degrés à Edmonton. Puis c'est de la pluie abondante dans le sud de l'Alberta. Beau et chaud et un peu d'humidité en Colombie-Britannique. 23 degrés, faible pluie à l'intérieur des terres. On va parler du Festival d'art de Saint-Sauveur. On va parler d'économie après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Finir dedans, tout mon noir qui se dessine. Je suis encore là, je me demande comment j'ai résisté au casting. Je reste loin du 1%. On part tous de la même espèce, alignés dans la même pièce. De la place pour un. La seule idée, finir dernier, c'est tout percer. Puisque dehors, c'est tout cassé, c'est qu'on pense trop. On cherche du regard, les gens qui comptent. Salaud starlet qui brille facile. Y'a trop de nombril, bap tout fragile. Je vais faire faire mes idées noires. J't'ai la clé au moins ce soir. Je veux m'asseoir, on voudrait te revoir. Mais ça fait grève, prendre une douche. Je sors du coffre, toute la pile coule sur mon torse. L'amour propre est un combat. C'est tout ce qui compte, y'a rien au-delà. On ne l'est pas. vie normale. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. On voudrait, on ne l'est pas. Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma. Je voulais bâtir empire, je voyais beau cadeau à venir, corps à fond dans la bagarre, en finir. Moins de caméras, des camélias, quand elles se baladent, elles volent des strass, et puis du sexe derrière les parcs. Elles voient la vie sans danger, en liberté, faut du papier, je veux du blanc et du violet, tellement serré, régler mes comptes au monde entier, faut pas que je lâche. Encore une marche, je veux pas finir sous une bâche, trace à la crème et dame s'arrache. Je vais faire faire mes idées noires, jeter la clé au moins ce soir. Je veux m'asseoir, on voudrait te revoir, mais ça fait grève. Prendre une douche, je sors du coffre, toute la pile coule sur mon torse. Le désir est un négoce, tout est à prendre, toi t'es proche. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. On voudrait, on ne l'est pas. Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma.
Kabaddi et sa chanson Voudrait.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je ne sais pas si vous avez vu le film, ça fait un petit bout de temps que ça a été produit. C'est repris depuis cet été dans une adaptation très québécoise et qui, à partir de demain, si je ne me trompe pas, est présentée au Festival Juste pour rire à Montréal, mais c'était présenté au Théâtre Lionel Groulx depuis le début de juillet, depuis le 17 juillet, si je ne me trompe pas, au 17 juin, 17 juillet. Pour en parler, donc, on reçoit la personne qui a fait l'adaptation du texte, parce que je pense qu'il aurait fallu l'adapter. Emmanuel Reichenbach, bienvenue à l'émission.
Oui, merci, bonjour.
Alors, cette pièce-là, quand on voit le film, il y a des blagues qui pourraient ne pas être très au goût du jour.
Oui.
Si on peut dire, qui serait peut-être même un petit peu raciste. Alors, comment tu t'y es pris?
Ben alors, c'est quand même une histoire, c'est une longue histoire, hein, parce qu'à la base, on a adapté, je remonte à 2016. Je travaillais comme auteur. Moi, à la base, je suis auteur. Aujourd'hui, je suis producteur. Je suis aussi le producteur du spectacle.
Oui.
Puis je dirige le département spectacle chez Encore Spectacle. Mais en 2017 ou 16, François Roson, qui était producteur chez Encore à l'époque, m'avait appelé puisqu'on venait de faire un show ensemble. Ça avait bien été. Moi, j'étais auteur. Il m'avait dit « Hey, venons voir ce film-là au cinéma. Aurais-tu envie de l'adapter en pièce? Penses-tu qu'on peut faire quelque chose avec ça? » Je me disais « Ah oui, c'est un beau défi. Pourquoi pas l'essayer après avoir vu le film? » Et puis on a donc créé une première version de cette adaptation qui a été jouée au Théâtre du Rideau Vert puis en tournée en 2016-17 qui avait très bien marché. Et puis voilà, on se téléporte des années plus tard. Moi, maintenant, depuis plusieurs années, je m'occupe du département spectacle chez Encore comme producteur aussi. Puis j'avais un projet, en fait, pour l'été et puis ça, toutes sortes d'embûches. Puis finalement, le projet n'arrivait pas à décoller. Puis je risquais de me retrouver pas de spectacle pour cet été. Puis ça me tentait pas. J'aime ça garder une régularité, produire des pièces l'été. On adore ça. On fait beaucoup d'humour, mais on fait beaucoup de théâtre. Et je me suis dit, bien, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet, l'époque, les sensibilités ont changé. Ça évolue vite, ça change vite. Je me suis dit, ça serait toujours intéressant. Je me suis dit ça serait intéressant de revisiter le sujet, mais la première personne qu'il fallait que j'appelle, c'était Rémi Gérard, parce que ça prend, tu sais, il faut s'assurer d'avoir notre père de famille. Et fait que j'ai appelé Rémi, j'ai dit hey, aurais-tu envie de rejouer ce rôle-là? Puis il m'a dit oui, ça me tente. C'est un des rôles les plus drôles que j'ai joué de ma vie. J'ai eu un plaisir fou à le faire, je le refais avec plaisir. Puis de là, ben, j'ai commencé à monter le projet. Puis là, je m'étais dit, ben, je vais réécrire le texte, c'est sûr, parce que à deux niveaux. C'est-à-dire que quand on écrit, la plupart des gens aussi, je pense, sont comme ça. Quand on se relit un an, deux ans ou cinq, six ans plus tard, on n'aime pas ce qu'on a écrit à l'époque. On a changé, on se trouve maladroit, d'une part. Puis d'autre part, bien, évidemment, les sensibilités ont changé. Puis c'est des sujets extrêmement sensibles. Je pense que j'ai pris de la maturité aussi avec les années. Donc, en me relisant, j'étais très inconfortable avec beaucoup de choses qu'il y avait dans le texte. Et à deux niveaux en même temps. C'est-à-dire, il y a des blagues où je disais, boy, ça passe pas, c'est maladroit. J'ai trouvé aussi que le texte, mais tu sais, je veux rien enlever à la production de l'époque. On avait fait un succès, puis les gens aimaient ça, puis ça résonnait bien. Mais avec le recul, moi, je trouvais qu'on était dans une provocation facile et qu'il y avait un manque de réelle sensibilité, puis d'écoute, puis d'empathie. Et donc, en le relisant, bien, à chaque scène, je me disais, je vais retravailler la scène. Après, je lisais la scène suivante, je disais, je vais retravailler celle-là aussi. Puis finalement, j'ai tout réécrit. C'est étrange parce que c'est les mêmes personnages, on raconte la même histoire, mais j'ai le rendu, les dialogues, la façon de faire passer l'histoire est complètement retravaillée. Et cette année, en travaillant avec Michel Maxime et avec tous les interprètes aussi issus des différentes diversités, le mot d'ordre, c'était vraiment bien, tout ce qui est tout ce qu'on a peut-être un inconfort, qu'on aurait un inconfort à défendre, comment on peut le changer, mais on ne veut pas perdre l'humour.
Ouais.
On ne veut pas perdre le côté baveux, mordant, un peu provocateur, mais on veut surtout... Fait que c'est, l'idée, c'était surtout de mettre l'accent sur c'est une famille c'est une famille qui a la volonté de se comprendre, mais qui a beaucoup de difficultés. Donc, c'est sur l'incompréhension, l'inconfort, la difficulté de l'écoute et de l'empathie. Mais je pense qu'on y est arrivé parce que, tu vois, c'est drôle. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment fait plaisir. Je parlais avec Ariel Ifergan, qui joue le personnage de confession juive dans la pièce et qui, dans la vraie vie, est dans une famille comme ça, mixte, multiconfessionnelle. Puis il disait, la pièce, elle est réaliste. Parce que nous, on a l'impression de faire de la comédie. On pousse, des fois, on est à gros traits, on pousse les procédés comiques, mais en fait... ça reste que c'est assez réaliste. Ça, il dit, on lève le voile sur nos soupers de famille, nos soupers de Noël, les questionnements, les inconforts, les incompréhensions, les maladresses, l'inconfort par rapport à ces sujets-là. Donc, je trouvais ça touchant de la part d'Ariel de dire, en fait, cette pièce-là, elle est honnête parce que ça ressemble à ça dans la vraie vie. Mais c'est sûr que là, dans la nouvelle version, moi, ce que j'aime en ce moment, c'est qu'on sent bien que c'est le père. Le père est pris avec des préjugés d'une autre époque qui lui viennent de son éducation à lui, de où il a grandi... Et la mère est un petit peu... Bien sûr, la mère est plus sensible, elle est plus empathique, plus ouverte d'esprit. Elle est un peu prise entre le père et les filles.
Oui.
Parce que lui, il adore ses filles, mais il est très méfiant des gens issus de la diversité. Et tout part de là. Donc, c'est une histoire d'une famille qui va apprendre à se comprendre avec tous les défis. Mais donc, il y a beaucoup de... on ressent un réel amour puis une volonté de se comprendre dans la famille. Puis le père doit finir par passer à autre chose. Sinon, on le voit, là, c'est lui qui paye au final. Puis il fait du mal autour de lui.
Puis aussi le père de l'autre famille, qui lui aussi a ses préjugés.
Tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est que... Parce que c'est pas vrai... C'est-à-dire que c'est pas symétrique, là, les préjugés dans les deux sens. Par contre, ce qu'on n'a pas le monopole, disons, on va dire, les Caucasiens, c'est d'être narcissique, manipulateur, capricieux, colérique. C'est-à-dire que les deux pères ont, au-delà des préjugés... C'est des hommes qui ont de grands défauts, des grandes failles de personnalité. Ils sont un peu centrés sur leur nombril, ils sont colériques, impatients, manipulateurs, capricieux, autoritaires. Ils ont plein de défauts et puis ça, il n'y a personne qui a le monopole de ça. Donc, c'est sûr que quand ils se rencontrent, c'est deux bonhommes qui sont pareils et s'ajoute à ça la couche des préjugés de part et d'autre. Mais ils vont apprendre à se comprendre, à se connaître, puis il y a quelque chose de beau qui se passe quand même entre les deux, puis il y a quelque chose, on arrive à faire passer finalement une espèce de sentiment de il y a moyen de se comprendre si on fait l'effort de se mettre à la place de l'autre. Ouais.
Moi, ce que j'aimerais, j'ai entendu des entrevues que tu as données, puis ça a mentionné un bout, que tu as quand même demandé à l'équipe, parce que tu es comédien, tu as beaucoup de comédiens issus de la diversité, comment ils réagissaient, comment ils se sentaient? Ça a vraiment fonctionné?
Complètement. Alors, dès le début, moi, j'ai dit, puis je l'avais fait à l'époque aussi, puis je l'ai refait, mais peut-être même encore plus cette fois-ci, dans cette nouvelle version. C'était toutes les jokes qui vous rendent inconfortables. Si vous avez le moindre inconfort, dites-moi-les, on s'en parle. Fait que là, un acteur pouvait me dire « Ah, moi, cette joke-là, je la trouve, je suis pas sûr qu'elle ait de bon goût. Je dis pas de problème, on la coupe. Moi, je m'ostine même pas. Je suis pas en position de m'ostiner sur ça. » Fait que moi, je dis « Hey, si t'as un inconfort, on l'enlève. On trouve une autre formulation. » Des fois, ils proposaient un truc. Des fois, moi, j'en proposais un. Fait que finalement, on arrive avec une équipe qui est fière de défendre chaque ligne. Il n'y a pas de ligne qui les rend inconfortables. Donc, puis on l'a fait avec tout le monde. Puis on a récolté. Puis finalement, bien, les gens sont fiers de monter sur le stage, défendre le show. Puis ils n'ont pas l'impression de faire un truc où finalement on véhiculerait, on perpétuerait des stéréotypes sous prétexte de les dénoncer. Tu sais, cette espèce de truc un peu où tu fais « Ah, ben on va parler de ça, mais finalement on fait juste renforcer un peu certains
préjugés. »
Je pense qu'on a réussi à éviter ça. Fait que ça, moi, j'étais content de ça. Puis tu sais, mais c'est drôle, un truc aussi où je me suis rendu compte en le travaillant que moi, au sein de ma famille, dans le fond, moi-même, il y a cette composante-là. Parce que mon père vient d'une famille... juive française et avec des racines en Suisse et de la bourgeoisie française juive et suisse. OK, c'est un mélange
quand
même.
C'est un beau mélange, oui.
Ouais. Et ma mère vient vraiment d'une famille montréalaise du milieu ouvrier, de vraiment l'univers de Michel Tremblay, l'Est de Montréal, le milieu ouvrier. Et donc, cette rencontre-là, au sein de ma famille, elle existe. Le clash entre la famille française, suisse et du côté de ma mère. Et je sais que la première fois où ma grand-mère avait rencontré mon père, quand ma mère a amené son chum, dans le fond, ma grand-mère avait dit « Oh, Reichenbach, c'est un nom très québécois, ça. » Et puis c'est drôle parce que je m'en suis rappelé ça, puis ça pourrait littéralement être une scène du film.
Ouais.
C'est la rencontre entre une famille avec quelque chose qui leur fait peut-être peur, un élément extérieur, étranger. Fait que, en quelque part, moi, Parce qu'on n'est jamais sûr si on est, comment dire, légitime à parler de ces sujets-là. Mais après ça, je me disais, ah, là, au sein de ma propre famille, c'est comme ça me dégageait un peu. Je me disais, ah oui, je peux en parler. Ça fait partie de moi. Ça fait partie, pas juste de moi, de beaucoup de gens. Mm-hmm. Mais moi, ça me donnait une espèce de confort et de liberté. De dire, ah, je peux y aller là-dedans, mais il fallait le faire avec du doigté puis vraiment être à l'écoute de l'équipe.
Les critiques jusqu'à maintenant sont bonnes. Ce que j'ai pu glaner jusqu'à maintenant sont bonnes. Donc, c'est un signe que ça fonctionne?
Ben, je pense que ça marche, ça touche les gens, mm-hmm. ça les touche, c'est ça que je... Au-delà, ça fait beaucoup rire, là. C'est ça, c'est une comédie très, très appuyée. C'est le type de comédie où ça rit pas mal constamment, là. C'est presque comme une mécanique.
Mais par le rire, hein, ça aide beaucoup.
Moi, j'ai dit ça dans une autre entrevue, puis là, tout le monde m'en a reparlé, mais je trouve que ça... c'est comme si ça met un genre de polysporin émotionnel. Ouais. C'est des choses qui sont très sensibles, très à vif, mais par le rire, si on le fait avec sensibilité, bien, ça peut venir désamorcer puis mettre vraiment une couche de bienveillance là-dedans. Fait que oui, par le rire, je pense qu'on y arrive. Puis oui, je pense que ça touche, parce que aussi c'est une famille, puis ça touche toujours les histoires de famille. On peut tous se reconnaître là-dedans, tu sais.
Juste mentionner, dans l'équipe, il y a Rémi Girard. Ouais. Il y a aussi, un petit peu, c'est mes yeux puis mon ordinateur, Vladimir Normil, qui est là aussi. Ouais. Il y a quand même toute une équipe.
Ouais. C'est 12 interprètes.
12 interprètes, c'est du monde. Ouais. Et la mise en scène de Michel-Maxime Legault.
Qui est super, qui est une personne merveilleuse, talentueuse.
Qu'on a connu pour son roman et sa pièce de théâtre Michelin.
Ouais.
Alors, pour ceux qui veulent voir la pièce, ça commence demain soir?
Oui.
Et pour combien de temps?
On est au Théâtre Jean-Duceppe pour les prochains jours, puis on se réinstalle au Théâtre Lionel Gros à Sainte-Thérèse presque à la fin du mois d'août, après tout l'été.
Donc, il y a encore de la place pour ceux qui veulent aller le voir. Puis,
il y en a.
Sur Internet, on va sur AHA pour le festival Juste pour rire. Puis sinon, on va chercher juste la pièce.
Juste qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on va le trouver. Ou sinon, sur encorespectacle.com. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel.
C'est un grand plaisir. Merci.
Emmanuel Lechenbach qui a fait l'adaptation et qui produit donc la pièce Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Excusez-nous, je pèse sur le mauvais bouton. Des erreurs, je sais pas, aujourd'hui c'est ma journée des erreurs, ça fait qu'on va...
c'est la joie du direct.
C'est la joie du direct, oui. Alors, sérieusement, vous savez que c'est la chronique économique et Michel Poitevin est là au bout du fil, qui est professeur à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, et qui est donc là au bout du fil pour nous parler. Bonjour Michel.
Bonjour Monsieur Chabot.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Alors, le Canada négocie avec les États-Unis un pacte de libre-échange. Il est beaucoup question de gestion de l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça?
Oui, c'est ça. On est en train de négocier, puis les Américains en veulent à notre fameux système de gestion de l'offre. Et puis au Canada, on y tient. Alors, c'est quoi ce système-là? En fait, c'est un système qui est là pour assurer des prix puis des revenus stables. Donc, des prix pour les consommateurs puis des revenus stables pour les producteurs. Le système s'applique là, à trois produits agricoles, le poulet, les œufs et les produits laitiers. Ce qui arrive pour ces produits-là, c'est que la production peut varier. En agriculture, ça peut dépendre des intempéries, pour les animaux, peut-être des maladies, etc. Alors, on a mis en place un système là, qui va nous assurer que les prix ne varieront pas trop et donc que les revenus des producteurs ne varieront pas trop non plus. Alors, comment on fait ça? On attribue à chaque producteur un quota de production. Donc, par exemple, un producteur laitier, qui produit du lait, bien, il a le droit d'avoir un certain nombre de vaches. Il ne peut pas en avoir plus, il ne peut pas en acheter plus pour augmenter sa production. Donc, on lui donne un certain nombre de quotas qui correspond à un nombre de vaches. Et puis là, bien, ça donne une certaine production laitière. Ces quotas-là, peut-être, parenthèse, peuvent être échangés. Quelqu'un qui voudrait avoir, qui voudrait produire moins, par exemple, qui pourrait prendre ses quotas puis les vendre à un autre producteur. Mais les quotas sont fixes et... au départ, ont été octroyés par le gouvernement, mais maintenant, ils sont échangés. Lorsqu'un producteur prend sa retraite, il va le vendre à un jeune producteur là, qui serait intéressé de se lancer dans la production laitière, par exemple.
D'accord.
Donc, ce que ça fait, bien, ça, c'est beau la stabilité, mais ce que ça implique des prix pour les consommateurs qui sont plus élevés que si le système n'existait pas. Puis pourquoi? Bien, ces quotas-là ont une valeur parce que c'est rentable de, par exemple, produire du lait. Donc, ils ont une valeur. Alors, un nouveau producteur, il va être obligé d'acheter un quota de production. Donc, ça augmente ses coûts de production. Et donc, il doit transférer ces coûts supplémentaires-là aux consommateurs. Donc, les prix sont plus élevés. Pour protéger ça, si on est dans un système de libre-échange, puis les prix étaient plus élevés, par exemple, ici qu'aux États-Unis, les producteurs américains diraient, bien, on va aller écouler une partie de notre production au Canada, là, les prix sont élevés, puis on va faire de l'argent. Alors, que fait le gouvernement? Bien, il va réduire les importations. Alors, de quelle façon on réduit les importations? Bien, on attribue, ça c'est négocié dans les accords de libre-échange, un certain quota d'importation sans tarif. Donc, les Américains ont le droit d'importer au Canada une certaine quantité annuelle de litres de lait, par exemple. On a la même chose pour le fromage, les œufs ou le poulet. Donc, on a une certaine quantité qui est hors tarif. Mais si les États-Unis dépassent ce quota d'importation-là, qui est agrégé là, pour le pays, mais qui est distribué en différents producteurs américains, mais là, on va avoir des tarifs qui peuvent s'appliquer puis qui peuvent varier de 125 à 250, 300 et même plus pour cent. Donc, des tarifs énormes. Quand on entend le président Trump qui dit les Canadiens nous imposent des tarifs de 300 % mais c'est ce à quoi il fait référence. On peut mentionner que les quotas d'importation n'ont jamais été remplis, donc les Américains n'ont jamais payé un tarif de 300 % mais ils sont là au cas où les quotas seraient dépassés.
Ouais, il faut dire que les États-Unis, eux autres, peut-être qu'ils n'imposent pas de tels tarifs, mais ils subventionnent énormément leur secteur agricole.
Ils subventionnent leur secteur agricole comme à peu près tous les pays dans le monde. Là. On dirait que les agriculteurs ont un fort poids électoral dans la plupart des pays et puis donc ils sont favorisés par...
Mais j'avais lu, Michel, que c'est pas mal plus élevé là-bas que chez nous, mais peut-être que je me trompe là.
Il y avait un article de Madame Grandmont dans la presse,
oui.
Grandmont, qui nous disait, là j'essaie de retrouver les chiffres, il me semble que c'est un peu plus faible. Le soutien aux producteurs agricoles est à peu près équivalent au Canada. Bon, au Canada, le soutien des gouvernements aux producteurs, c'est 8,5 % des recettes brutes. Aux États-Unis, c'est
8,1.
Ah, OK. Donc, c'est un peu plus faible, mais c'est très semblable. Par contre, on montre l'Union européenne, on est à 16 % Là, j'ai le tableau devant moi. Là,
ouais.
Ceux qui sont intéressés pourraient aller voir. Le Japon, certainement, il protège beaucoup la production de riz. C'est très difficile d'exporter du riz vers le Japon, sont à 32 % la Norvège, 49. Donc, nous, le Canada, on est dans les pays faibles, les États-Unis peut-être un peu plus faibles, mais ce que je serais curieux de voir, c'est ça, c'est le soutien, donc c'est l'argent qu'on donne aux producteurs. Je suis pas sûr que ça compte la gestion de l'offre, parce que le système de gestion de l'offre, ça aide à maintenir des prix élevés, mais le gouvernement ne débourse rien. En fait, c'est le consommateur qui paye. Donc, c'est un peu une des raisons pourquoi on a mis en place à l'origine ce système-là, c'est que ça coûtait rien, entre guillemets, au gouvernement, parce que là, ils disaient, OK, on donne des quotas de production, ça ne nous coûte rien, mais ça résulte dans des prix plus élevés pour les consommateurs, puis finalement, ce sont eux qui payent directement l'aide.
Mais je pourrais faire mon petit fin finot, puis dire, bien, si le gouvernement faisait de l'aide directe, ça serait quand même les consommateurs qui paieraient par leurs
exactement,
impôts.
Exactement. Donc,
on ne gagne pas. Hein?
Ça vient toujours de la même poche. C'est là, donc, effectivement. Puis là, donc, dans le chiffre là, du 8,5% dont on parlait de l'aide des gouvernements, je pense pas qu'on calcule la question de gestion de l'offre, parce que c'est une aide indirecte, puis il n'y a pas de débours de la part de nos gouvernements. Donc, je suis pas sûr que c'est un super bon système ou une bonne façon d'aider. Comme vous le dites, de toute façon, c'est les consommateurs qui payent, mais prenons un produit comme le lait.
Ouais.
C'est qui demande le lait? Ben, tu sais, les adultes, c'est rare qu'on boive du lait. Bon, puis là, je parle du lait pour consommation. C'est sûr qu'ils rentrent du lait dans les produits transformés et puis d'autres aliments.
Dans le café.
par exemple. Donc, on en met un petit peu. Mais souvent, les grands consommateurs de lait, ce sont les enfants. Puis dans les familles défavorisées, c'est rendu que le lait coûte plus cher que la bouteille de Coke.
Ouais, c'est vrai.
C'est peut-être pas une bonne chose. C'est peut-être pas une bonne façon, parce que c'est une taxe déguisée. La gestion de l'offre, c'est une taxe déguisée. Puis souvent, les économistes, quand on regarde la taxe, on est intéressé par l'incidence de la taxe. Qui paye la taxe? Lorsque ça passe par les revenus globaux du gouvernement, on a quand même un système de taxation qui est progressif. Donc, les gens un peu plus fortunés vont contribuer plus. Peut-être pas assez au goût de certains, mais on a quand même un impôt progressif au Canada. Alors que quand on fait un système de gestion de l'offre, bien, l'incidence, c'est les consommateurs de lait. C'est pas nécessairement les gens les plus fortunés qui en boivent. Là, Je suis pas un grand amateur du système de gestion de l'offre pour soutenir là, le secteur agricole.
Je vois le temps passer. On voulait aussi, je sais pas si on va peut-être sauter quelques petites choses, mais on voulait parler de ces CPE qui doivent expulser des enfants de travailleurs avec permis de travail ouvert. Alors, il y a beaucoup de choses à expliquer ici.
Oui.
Le permis de travail ouvert, ben, je vais te laisser expliquer tout ça, là.
C'est ça. Puis reprenez-moi, je me trompe, là, mais le permis de travail ouvert, c'est un permis de travail. Donc, c'est un immigrant qui vient au pays, qui a le droit de travailler, mais il peut travailler où il veut dans le pays ou pour n'importe quel employeur. Alors qu'un permis de travail fermé, par exemple, on vient au pays, puis c'est Bombardier qui nous a recrutés, puis là, on travaille, puis notre employeur, c'est Bombardier, puis on reste là. Alors, le permis de travail ouvert, la personne peut déménager puis peut changer d'emploi facilement. Donc, la différence, c'est est-ce qu'il y a un employeur identifié ou pas. Et puis là, les CPE, ils viennent d'apprendre, mais en lisant les articles, ce qu'on dit, c'est que le règlement a toujours été là. Donc, il y a un règlement pour l'accès au centre de la petite enfance à tarif réduit. Qui est restreint au... Bon, les Québécois y ont évidemment accès, et les immigrants qui ont un permis de travail fermé. Puis là, on s'est rendu compte que peut-être certaines CPE avaient mal interprété le règlement. Puis là, on expulse des enfants des garderies parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le tarif réduit. Ah, c'est un peu une tragédie, ça, certainement pour ses enfants et ses familles. Là, souvent, c'est pas les familles les plus favorisées. Puis en même temps, il y a eu plusieurs études qui ont montré que les CPE augmentaient l'offre de travail des femmes, puis ça avait été une bonne chose. Donc, enlever l'accès à ces immigrants ou à ces parents immigrants là, qui ont un permis de travail ouvert, bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça se peut qu'il y a des femmes qui travaillaient ou des hommes là, qui vont être obligés de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je suis pas sûr que la société québécoise y gagne là, d'imposer cette restriction. Puis on mentionne aussi certains exemples dans l'article. Et encore une fois, il y avait un article dans la presse. Je sais qu'il y en a eu un aussi sur ICI Radio-Canada. c'est que parfois, la personne avec le permis de travail ouvert travaille elle-même dans une garderie. Donc là, si son enfant ne peut plus être gardé, c'est sûr qu'elle quitte son emploi. Donc ça va affecter doublement les garderies qui perdent des enfants puis qui pourraient perdre, dans certains cas, des travailleurs.
Je ne sais pas si ça, on peut expliquer ça, mais comment on peut dire ben, permis fermé, ça va, on va laisser aller en CPE, permis ouvert, on ne laisse pas.
C'est une très bonne question, puis honnêtement, je comprends pas la logique de ça. Je pensais que c'était un nouveau règlement, mais là, il y a un article qui disait non, ça a toujours été là, peut-être ça a mal été interprété, mais peu importe si c'était là au début ou ça vient d'être imposé, je comprends pas l'idée là entre fermé et ouvert, là, pourquoi? Peut-être qu'on aime mieux avoir des immigrants qui ont un permis fermé, puis là, je spécule, là, qui ont un employeur dédié, puis peut-être que ce sont des gens qui ont des meilleurs emplois. Est-ce qu'on veut favoriser ce type d'immigrants-là plutôt que ceux qui ont des permis ouverts, puis que peut-être qu'ils ont des emplois un peu plus précaires, puis on aimerait les limiter? Je sais pas, je spécule, là. J'essaie de voir la différence, mais ça non plus, je trouve pas que c'est une super bonne idée.
Mais Michel Poitvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Moi, j'ai le temps de vous dire qu'après la pause, on va voir la chronique livre et on va, oui, vraiment parler du Festival des arts de Saint-Sauveur. C'est moi qui me suis trompé tout à l'heure en l'annonçant à 10h au lieu de l'annoncer à 10h30. Alors, à tout de suite.
Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Armanet, cavalier seul.
C'est le temps de notre chronique littéraire, notre chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de Quelques solitudes, un roman de Marianne Brisebois chez Urtubise.
Oui, qui se destine aux adolescents. Mm-hmm. Je précise quelques solitudes au pluriel parce qu'il ne s'agit pas de la solitude en général, mais de personnes qui...
Oui, j'ai pas pensé de le dire. Merci de le corriger, oui.
C'est pas grave. Donc, c'est un roman quand même de 287 pages. Donc, ça prend une couple de jours, on peut accrocher à ça. Puis c'est pour ça que les ados qui ont parfois pas trop envie de lire, ben je pense que celui-là va leur plaire. Parce que cette fille, Marianne Brisebois, dans la vie, elle est diplômée en psychologie et en communication, donc elle sait écrire puis elle sait analyser les personnes, ce qui fait qu'elle crée des personnages qui sont attachants. Et puis dans la vie, elle travaille en psychologie dans le milieu communautaire. Aussi, dans sa vie, elle fait des ateliers d'écriture, elle encadre des gens qui veulent publier. Donc, la littérature, ça fait comme partie de sa vie de toute façon, même si elle est psychologue. Et elle a publié 4-5 romans, toujours autour des problèmes de personnalité, de santé, de deuil, d'amour, d'amitié. Et celui-là, donc, Quelques solitudes, c'est sur la rupture amoureuse. Et puis la reconstruction suite à une rupture, des relations amicales qui vont se briser, mais d'autres qui vont se créer. Et puis à travers tout ça, ben, il y a question de santé mentale, anorexie, troubles alimentaires, thérapie, etc. Donc comment ça se passe? C'est construit sur deux temps pour les 100 premières pages à peu près. Exemple, premier chapitre, 27 avril, Liliane qui a 26 ans est chez sa mère tante. Parce qu'elle vient de rompre avec Julien, puis c'était en couple depuis presque 10 ans. Deuxième chapitre, on est 3 ans en arrière, le 30 juillet, et on voit que même si là, ils célèbrent 7 ans ensemble, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Elle n'a rien à reprocher à son chum, ils ont des amis, mais je la cite, elle dit « Mes amis ne me connaissent pas, et ils ne s'en rendent même pas compte. Je préfère laisser le vin blanc me faire oublier ma solitude amicale. » Donc, ça, c'est la première solitude qu'elle va éprouver en vivant avec son chum. Plus tard, quand ils vont rompre, ben, elle va en avoir une autre, qui est la rupture amoureuse qui est entraînée par un malaise de se retrouver soudainement tout seul, alors que depuis des années, on construit des projets. Ils avaient en tête de se marier quand ça allait faire 10 ans qu'ils étaient ensemble. Alors, tous ces projets vont évidemment échouer. Et dans ces démarches de bien-être, parce qu'elle sentait bien qu'elle n'était pas bien, elle est retournée aux études. Puis elle veut écrire, elle veut publier un roman. Donc, d'un chapitre à l'autre, au début, on est dans le présent de la fiction, puis dans le passé. Puis tous ces passages-là, ces fragments du passé, nous permettent de construire un casse-tête. Puis on comprend la psychologie de cette fille-là, puis c'est sûr que nous, en tant qu'adultes, on comprend tout ça, puis on voit très bien ce qui va se passer. Mais ça crée, un travail chez le lecteur qui fait que notre adolescente qui vont lire ça, ben, ils vont travailler un petit peu, puis dire « Ah, bon, regardons, il est arrivé ça. Bon, c'est peut-être ça qui annonce ça. » Ça nous permet de mieux comprendre pourquoi ce couple-là ne peut plus durer, parce qu'il arrive un événement précis qui va faire que ça va éclater, mais on sent qu'elle n'est pas épanouie. Alors là, chez sa mère, elle veut surtout pas rester là. Elle cherche dans les petites annonces, puis elle trouve quelqu'un qui cherche un colocataire dans une belle maison sur une île à Laval qui s'appelle l'Île Verte, où il y a là des superbes maisons. Et elle n'a pas vraiment un travail, elle était aux études, alors tout ce qu'elle voit, c'est être colocation dans des taudis, ça ne l'intéresse pas. Là, c'est quasiment un rêve. Fait qu'elle s'en va là et elle rencontre Simon-Pierre Cadieux, qui est un jeune de son âge, qui a hérité de cette maison-là, qui était à sa grand-mère. Oh, mais il est mal en point, ce garçon-là. C'est pour ça qu'il veut quelqu'un dans la grande maison avec lui. Mais là, elle arrive avec une liste de règlements, pas le droit d'aller là, ça c'est ma chambre, ça tu peux pas toucher à ça. Puis bon, ça fait peur un peu, mais c'est tellement pas cher qu'elle dit pourquoi j'en profiterais pas, il y a une piscine dans la cour, c'est un château pour elle. Donc, elle va y aller doucement pour essayer d'établir une communication avec lui, mais il veut même pas, là. C'est, au début, il est très, très fermé parce qu'on apprend que ce garçon-là a des problèmes de santé mentale, a fait une tentative de suicide. Et surtout, il est quelqu'un qui a un problème d'alimentation. Là. Il est anorexique, problème qu'on associe juste aux filles qui veulent être minces et puis qui à l'adolescence, développent beaucoup de problèmes avec ça. Mais l'anorexie, apparaît-il, existe aussi chez les hommes, moins répandue, mais lui, il en est un cas et c'est un de ses problèmes. Parce que lui aussi vient de rompre avec Sarah, qui était sa compagne avec qui il devait se marier. Donc, ils sont tous les deux dans des situations semblables, mais pas au même niveau. Et puis ensemble, en dialoguant, ils vont combler cette grande solitude qu'ils ont. Ils vont apprendre à se connaître et ils vont se reconstruire mutuellement par des discussions, des échanges et surtout une grande liberté qu'ils vont se laisser tous les deux. Donc, c'est intéressant parce que je pense que les adolescents vont retrouver là beaucoup d'allusions au cinéma, à la musique, à la chanson, à la littérature et particulièrement à Harry Potter. Quand ils discutent, ils se demandent s'ils sont serpentards ou bon, ils font des références aux œuvres de la série ou au film, enfin. Et puis bon, ça fait que ça peut les accrocher aussi. Les personnages sont crédibles, ils sont attachants, leur caractère change, ils évoluent, mais on sent que c'est une adulte qui a écrit pour eux. Moi, je sais que ils ont un caractère adolescent, même s'ils ont 26-27 ans, parce qu'ils sont tous les deux très malades et disons qu'il leur manque quelque chose. Donc, ils vont beaucoup évoluer, devenir adultes ensemble. Et puis bon, ça se termine très bien, c'est important de le dire, parce que ça va pas bien au début, là, c'est vraiment... Et on sait combien d'adolescents ont des problèmes alimentaires, l'anxiété terriblement forte et dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et ce garçon-là, il a tout ça. Donc, ça nous permet de voir qu'il n'y a pas juste les filles, d'abord, qui ont ces problèmes-là, puis aussi de voir comment un garçon se compare, puis comment est-ce qu'il va arriver à oser même, exemple, aller se baigner dans la piscine. Parce que pour lui, son corps, c'est ça son problème. Et il ne mange pas, donc il est très maigre, et puis il a honte un petit peu de ça. Bref, c'est près des préoccupations adolescentes, avec des expressions propres à leur génération, des affaires que moi j'ai cherchées parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, une manière de parler. Et puis, cette manière d'aborder des sujets sérieux, ça passe bien parce que c'est à travers des histoires d'amour, de rupture, puis d'amitié. Puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu as 16-17 ans puis que tu te fais un chum, ben 10 ans plus tard, quand tu as 27-28 ans, tu n'as rien à lui reprocher, sauf que c'est peut-être pas exactement la personne avec qui tu veux faire toute ta vie. Et ça, c'est difficile d'en prendre conscience, et c'est difficile d'oser en discuter avec l'autre parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, mais tu n'es pas tout à fait épanoui. Et c'est un événement ici qui va tout bousculer chez les deux, un chez un chez la maladie et l'autre c'est une autre histoire. Donc, ça sert à aborder différents sujets, même la religion. Ça m'a vraiment étonnée. Ce garçon-là va à la messe avec ses parents le dimanche. Alors, il lui dit, fais-moi plaisir, viens avec moi, ça va être moins difficile. Elle, je ne sais pas si elle est déjà allée à l'église seulement, si elle a été baptisée, mais elle l'accompagne parce qu'elle est gentille puis elle voit bien qu'il a besoin d'aide. Fait que, donc, autrement dit, il y a des sujets comme la spiritualité qui est abordée, mais sans jamais moraliser. Elle arrive là avec tous ses préjugés, puis elle va les briser. Parce que lui, il va lui dire, ben voyons, c'est pas grave, là, t'es pas obligé de croire en Dieu. Fait que là, elle va là, puis elle prie pour être bonne comme Balzac quand elle va se mettre à écrire. En tout cas, c'est un peu drôle, il y a beaucoup d'humour aussi. Et puis, ben, ce qui est intéressant, c'est tout ce que la narratrice raconte, parce que tout passe par elle. Donc, elle parle avec le garçon, mais tout de suite après, on a un paragraphe qui nous dit ce qui se passe dans sa tête, qu'elle ne lui dit pas. Donc, nous, on construit finalement leur amitié comme ça. Je termine en citant quelque chose qui décrit peut-être pourquoi elle écrit des romans comme ça. J'ai jamais pensé que la fiction était moins profonde quand son but, c'est de faire du bien. Si ça fonctionne, c'est tout un art. Ça, c'est Simon-Pierre qui dit ça à Liliane, mais on comprend que ça peut peut-être être aussi la vision que Marianne Brisebois a quand elle écrit ses romans. Elle en fait plusieurs, et entre autres, un autre plus tard que j'ai commencé à lire qui s'appelle « Fragments d'Olivier », où là, on aborde la dépendance dans les relations et aussi dans les drogues, bien sûr. Donc, deux bons romans de peu près de 300 pages qui peuvent occuper nos ados cet été, un jour de pluie ou de trop grande chaleur, qui sont chez Urtubise, puis qui ressemblent à des romans d'adultes. Et la page couverture de l'édition que moi j'ai de Quelques solitudes, c'est une fille de dos avec une presse qui fait référence à l'illustration de la pochette de l'album de Taylor Swift qui s'appelle Evermore. Mmh. Et puis bon, ben moi, c'est parce que j'ai une ancienne édition. Aujourd'hui, ils l'ont remplacée par des notes de musique, mais on voit là l'influence des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des comédiennes. Comment, à l'âge où tu te cherches, tout ça peut prendre de l'importance. Alors, un roman que j'ai bien aimé, et puis finalement, toute une série de romans qui risquent de plaire aux ados cet été.
Oui, alors des belles lectures d'été, peut-être même aussi des lectures d'hiver, hein, sait-on jamais, quand tu fais la tempête, mais on commencera pas à parler des tempêtes de neige le 22 juillet.
Aujourd'hui.
Pas aujourd'hui. Anne-Marie Aubin, la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Au revoir. On s'en va faire un petit tour maintenant du côté de Saint-Sauveur. C'est le Festival des arts de Saint-Sauveur. Passionné des arts, de la danse et de la musique, bien, le Festival des arts de Saint-Sauveur vous offre des spectacles intimes sous son grand chapiteau et des performances gratuites en plein air dans le décor enchanteur des Laurentides. C'est sa 34e édition et pour en discuter, nous recevons son directeur général, Étienne Lavigne. Bienvenue à Canalem.
Bonjour.
Bonjour. Alors, ben, allons-y. Qu'est-ce que c'est que le Festival des arts de Saint-Sauveur, pour ceux qui ne le savent pas?
Ben, le festival, comme vous avez dit, c'est la 34e saison. C'est un festival principalement de danse. On a vraiment découvert une niche là, particulière dans les Laurentides, où est-ce qu'on présente la danse sous toutes ses formes. On essaie de trouver l'excellence dans toutes les formes de danse, que ce soit la danse contemporaine, le ballet classique, le flamenco, le street dance, peu importe. On offre vraiment de tout. Et puis, ben, c'est principalement danse, mais on fait aussi de la musique avec des grands artistes qui viennent chez nous. Donc, c'est sous un grand chapiteau, ce qui est très particulier dans les Laurentides. C'est à l'intérieur, on dirait qu'on est dans un théâtre régulier, puis on sort du grand chapiteau, puis on est dans les magnifiques Laurentides avec les montagnes de Saint-Sauveur. Là. Alors, c'est un endroit spécial, puis on est vraiment chanceux de pouvoir le présenter.
Ben, parlons d'abord, parce qu'il y a une partie de votre programmation qui est gratuite, parlons d'abord de cette programmation gratuite. Je comprends que ce qu'il y a là-dedans, le sentier ou les sentiers de la danse.
Oui, absolument. C'est un beau projet qu'on a débuté il y a quelques années. C'est un des avantages de la pandémie. On a découvert un beau projet là-dedans. On a fait un dans les sentiers forestiers qui sont juste sur le bord de la montagne du Cap Molson. Il y a un sentier forestier d'à peu près 1,5-2 km. C'est un petit sentier, mais c'est vraiment à l'intérieur de la forêt. Puis on a bâti trois petites scènes dans ces sentiers-là. Puis les gens font un parcours d'une heure où est-ce qu'ils voient trois compagnies différentes sur ces trois scènes-là. C'est vraiment une belle façon là, de vivre les arts dans la nature comme ça. Puis c'est des artistes de haut calibre. Beaucoup, beaucoup d'artistes québécois, beaucoup de premières mondiales aussi, on offre la chance à plusieurs artistes de présenter pour la première fois leurs pièces dans les sentiers. Puis c'est quelque chose qui est tellement populaire vu qu'il n'y a pas tant de place dans les sentiers. Alors, on fait plusieurs parcours à 2h, 3h, 4h. Il y a trois parcours par jour. Puis c'est les vendredis et samedis du festival. Puis il y a deux sentiers différents. Donc, la première fin de semaine, c'est trois compagnies. Puis la deuxième fin de semaine, c'est trois compagnies différentes aussi. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'on est un des seuls qui peut vraiment faire ça là, à Saint-Sauveur. Alors, présenter la danse et la musique comme ça dans un contexte si riche.
Il faut quand même réserver hein, parce que les places sont limitées.
Oui, ben c'est ça. C'est vu que c'est un sentier forestier, c'est pas si grand que ça. Puis on veut que les gens aient une belle expérience. Alors, on limite. Donc, il y a certains parcours là, qui sont complets, mais pas tant que ça. Il y a encore des bonnes places pour certaines heures. Alors, on invite les gens à réserver d'avance. pour être sûr d'avoir d'avoir une place comme ça, parce que c'est vraiment, c'est un événement qui, c'est ça, je pense que c'est la quatrième année qu'on fait ça, puis c'est rendu vraiment prisé, là. C'est tellement beau dans la nature comme ça, de voir la danse et la musique. Alors oui, on demande aux gens de réserver.
Je vous amène aussi à parler des films de danse où les étoiles, c'est projeté ça au parc Georges Filion.
Absolument, c'est ça. On fait cette année, on fait le classique Danse ta vie, c'est Center Stage. C'est vraiment un classique du ballet sur film. Là. C'est un film des années 90 qu'on voulait ramener pour que les jeunes puissent voir ça. C'est vraiment c'est un film que moi, en tant que danseur, j'ai grandi avec ce film-là. Puis on présente aussi Wicked. C'est encore une fois, c'est toujours bien pour nous de. On essaie d'offrir la danse sous toutes les formes. Et puis des fois, bon, on fait à l'extérieur, on fait les compagnies internationales sous le grand chapiteau, mais on fait justement des films pour la famille qu'on puisse voir, des films de danse à l'extérieur comme ça, à la Belle Étoile. Donc on essaie de vraiment le spectrum de rejoindre tous les gens possibles. L'autre chose qu'on a aussi des événements gratuits, c'est les samedis dansants qui sont, on prend un style de danse, on offre un atelier gratuit à 6 heures au parc Georges Filion, dans le milieu du village. Et puis, après ça, il y a un band. Donc, le premier samedi, c'est le tango. Donc, on peut prendre un atelier de tango avec un professeur puis des danseurs professionnels. Puis, par la suite, il y a un band qui vient. Donc, on peut pratiquer avec le band de tango nos nouvelles habiletés qu'on a découvertes avant ça. Puis tous ces événements-là, c'est gratuit.
Bon, alors même pour les gens qui ont deux pieds gauches comme moi, on peut apprendre quelques petits pas, c'est ça?
Absolument, on ne juge pas.
C'est parfait. Oui, parce que je reviens là-dessus tout à l'heure, parce que vous avez quand même une grande carrière de danseur, alors je serais un petit peu intimidé d'aller essayer de danser devant vous, mais quand même.
Oh, vous savez, le tango, j'ai jamais été fort dans le tango. Je suis un peu plus ballet, donc fait qu'on serait tous les deux du même niveau.
C'est bon. Je pense que je vais vous amener aussi à parler des spectacles en salle. De quoi en est-il cette année?
Cette année, on a une programmation vraiment extraordinaire, très internationale. On a mon coup de cœur vraiment pour moi cette année, c'est les Soirées des Étoiles. On invite beaucoup de compagnies, plusieurs compagnies pendant les deux semaines du festival. Mais pendant deux soirs, on invite vraiment des grandes vedettes individuelles de plusieurs compagnies différentes. Donc, on a une danseuse principale du Pennsylvania Ballet. On a un danseur principal du Pacific Northwest Ballet, on a des gens du Royal Birmingham. Donc, c'est des danseurs de ballet et de contemporains qui viennent faire des extraits de leurs pièces. Donc, on a une danseuse qui vient faire un extrait du Pas de deux du Lac des Cygnes. Il y a un autre qui fait un extrait du Pas de deux de Gisèle. Et puis, on a aussi des danseurs contemporains extraordinaires, dont Emma Portner, qui est une grande vedette canadienne de la danse contemporaine. Et puis qui vient faire deux duos. Puis on a aussi un grand danseur de Séville, de flamenco, qui vient dans cette soirée-là pour faire un extrait de flamenco. Alors, dans une seule soirée, on peut voir des extraits de plusieurs styles, puis c'est toutes des grandes vedettes internationales qui sont rarement vues au Canada. Donc, on voit ça. Ça, c'est le jeudi 24 juillet puis le vendredi 25 juillet. C'est vraiment mon coup de cœur, puis il reste quelques billets pour ça. Là. C'est vraiment une belle opportunité de voir des artistes aussi exceptionnels que ça. Puis, on reçoit aussi une grande compagnie de Taïwan. On est vraiment chanceux. Une compagnie qui s'appelle Boulard Young de Taïwan. C'est une compagnie qu'on a seulement eue à cause qu'ils sont en visite dans deux autres festivals. Alors, on a réussi à combiner nos efforts à trois festivals internationaux. Les deux autres sont aux États-Unis. Mais les trois festivals, on a finalement partagé les coûts de cette compagnie-là. Fait qu'on a été chanceux. On est vraiment chanceux de les avoir ici. C'est 8 danseurs taïwanais des Premières Nations. C'est une danse vraiment contemporaine, très viscérale, très forte, avec des chants traditionnels et de la danse traditionnelle. C'est vraiment, vraiment beau. Une belle puissance de 8 danseurs hommes taïwanais. Alors ça, c'est une chance inouïe de les avoir chez nous. Et puis, un autre que je mentionnerais, c'est Travis Knight, qui est un grand danseur à claquettes, qui a été vu internationalement dans plein de films, qui a été mentoré par Gregory Hines, qui est une des sommités de la claquette, qui vient avec son band de jazz. Donc, c'est vraiment un spectacle intime, juste avec une vedette internationale, seule avec des musiciens. Puis le chapiteau, ça se porte vraiment bien pour des spectacles comme ça, avec son intimisme. Donc, on est vraiment près des artistes dans le chapiteau. Alors, ça sera un spectacle extraordinaire aussi.
Est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'histoire, votre histoire? Parce que vous avez été danseur du Ballet national du Canada, mais vous avez dû quitter, hein, à la suite d'un accident, puis vous vous êtes recyclé, si on peut expliquer, où vous avez tourné une deuxième carrière en tant que directeur artistique ou directeur de compagnie artistique, là?
Ouais. Ben, oui, j'étais longtemps. J'ai été entraîné ici à Montréal, à l'École supérieure de ballet du Québec. C'est ça, j'ai fait ma carrière au San Francisco Ballet puis au Ballet national du Canada. J'ai eu une assez longue carrière, mais comme toute carrière de ballet, le corps ne répond pas toujours à la fin. Et puis, j'ai eu une grosse blessure au dos. Je travaille beaucoup avec Guillaume Côté, qui est notre directeur artistique. Alors, dans cette optique-là, quand Guillaume est devenu directeur artistique ici, ben moi, comme vous dites, je me suis recyclé en directeur général avec lui pour prendre ce beau projet. Le festival était déjà connu internationalement. Moi, j'avais dansé en tant que danseur dans la soirée des étoiles que je vous parle. J'avais dansé en tant que danseur invité du Ballet national. Alors, je connaissais déjà très bien le festival. Il avait déjà une belle réputation. Alors, Guillaume et moi, on est venus retourner. On voulait revenir au Québec, finalement, puis redonner de ce qu'on avait appris à l'international. Fait que
grâce à vous, les revenus de la billetterie du festival, là, ça a augmenté de 36% là, depuis 2019. C'est quand même pas rien. Je vais devoir arrêter ici, Étienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle que le festival se déroule jusqu'au 3 août. Ça commence le 23. Demain, ça se termine le 3 août, c'est ça?
C'est ça, exactement, du 23 au 3.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, nous venons de recevoir donc Étienne Lavigne, directeur général du Festival des arts de Saint-Sauveur.
Ces étoiles, fais les feuillons face à Haïti, sélection nationale. Tu es, ça qui remet nous remet yon idem. Tout le la cap dans ses sous qui finit bien mandem. Qui le peuple a libéré, que ça yon mandem. Ma connaît maintenant qu'on rafle, c'est royauté dans le monde. Rimski!
Seulement pour samba.
Diogo Ramos qui chantait Samba do Bonsi.
On avait le goût de danser. On va peut-être se rendre au festival de Saint-Sauveur. C'est pas du tango, mais c'est pas grave. On pourrait apprendre ça. J'aimerais bien te voir, toi aussi. Parce que moi, j'ai deux pieds gauche. Toi, tu as quoi, deux pieds droits?
Oui, peut-être.
T'es meilleur danseur que moi, j'en suis certain. Et c'est le temps de vous dire gros bye-bye tout le monde. On a eu beaucoup de plaisir à cette émission ce matin avec beaucoup d'invités. Donc, on se revoit demain à la même heure. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Merci à Mathieu Tessier et à toute l'équipe de Canal M pour cette chance inouïe de pouvoir avoir un micro avec vous, vous jaser tous les matins comme ça. Bye-bye, à demain.